Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, nous faisons un petit hors-série à l'événement organisé par Black Book pour ses 10 ans. Et ici, j'ai rencontré des gens que je ne m'attendais pas à voir, comme Brand, qui est en face de moi.
Salut monsieur.
Et également Coralie.
Bonjour.
Et nous avons discuté un petit peu et tu fais des choses très intéressantes.
Oui, alors très intéressantes, ben, on verra quand ce sera fini.
Donc tu fais une thèse de littérature comparée à Paris 13.
Voilà.
Et donc c'est une fac un petit peu particulière où on enseigne notamment la science du jeu.
Ouais.
Donc ce qui t'a permis de faire une thèse dont le sujet balaye les éléments suivants, les liens du jeu de rôle avec la littérature, les liens de celui-ci également avec la culture populaire et les spécificités de notre média. Alors pourquoi ce thème?
Pourquoi ce thème? Parce que finalement je me suis rendu compte... Pour commencer par le début, c'est peut-être mieux. Ma directrice de thèse, c'est Anne Larue, donc c'est quelqu'un qui bosse pas mal sur tout ce qui est fantasy, genre de l'imaginaire. Okay. Et récemment, je pense qu'il y a une prise de conscience dans l'enseignement supérieur au niveau des cultures populaires, il se passait vraiment quelque chose médiatiquement au niveau de l'interactivité, notamment parce que le jeu vidéo, c'est devenu la première industrie culturelle du monde, mais pas que. Et donc, il y a eu un vrai intérêt pour ces champs-là, notamment comment c'est venu, d'où ça vient, et surtout comment les différents médias communiquent entre eux et toute cette culture est partie, quoi. Donc du coup, moi j'ai toujours eu envie de bosser sur le jeu de rôle en recherche, même quand j'étais au Mirail parmi les premières années de recherche de littérature comparée, j'avais fait une petite maîtrise sur le jeu de rôle qui vaut ce qu'elle vaut. Donc voilà, j'avais déjà commencé à bosser là-dessus. Et je me suis rendu compte que, notamment en France, mais pas que, les liens entre littérature et jeu de rôle, alors ça va au-delà des romans Dragonlance, hein, ça va au-delà des romans en licence, par exemple des gens comme Mathieu Gabory, Fabrice Collin, tous ces gens-là, comment ils avaient structuré leur boulot d'auteur. Il y avait des liens avec le jeu de rôle qui étaient beaucoup plus profonds, que ça soit en termes de personnages, que ça soit en termes surtout de façon dont on bâtit des univers. Et donc du coup, il m'a semblé que il y avait vraiment matière à faire une thèse là-dessus. Donc Anne Larue, elle, ça l'intéressait beaucoup. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup aux jeux vidéo et à ces cultures-là. Donc à partir de là, la thèse en littérature comparée, c'était parti. Et la littérature comparée, c'est un domaine en gros qui s'intéresse à la littérature comparée à d'autres médias. Ça peut être le cinéma, ça peut être la BD, mais c'est en gros quelque chose qui est très ouvert au-delà de la littérature. C'est aussi la fiction, c'est aussi beaucoup la narratologie. Alors c'est vrai que l'école américaine de la narratologie, on connaît plus tout ce qui a plutôt à être au cinéma, à l'écriture de scénarios, à des choses comme Joseph Campbell
le héros au sans visage,
mille. Et donc du coup
ce genre de bouquin
et donc en France en littérature on a plus une école de narratologie qui est plus littéraire avec des gens comme Gérard Genette. Alors c'est des choses qui peuvent paraître super arides comme ça, mais si on se donne la peine de passer le côté c'est chiant à lire, parce que ça peut être chiant à lire, c'est des choses très intéressantes. Donc notamment la narratologie du JDR qui est ultra particulière.
Tu pourras me donner une petite bibliographie pour les auditeurs,
et même une énorme si tu veux. pas de souci. Et donc du coup je parle de la narratologie du JDR qui est particulière, la façon dont on structure les univers, où j'ouvre à d'autres médias, mais que ce soit des œuvres de Naruto, Harry Potter, en fait les liens peuvent vraiment partir dans plein de médias et dans plein de directions différentes, parce que finalement on se rend compte, quelqu'un comme Joss Whedon, j'ai une petite partie, on va dire, ou une bonne partie sur ce qu'il a fait en tant que réalisateur, évidemment, en tant que scénariste, mais pour moi il y a vraiment des choses qui viennent du JDR qui sont vraiment saillantes dans son œuvre, quoi. Et c'est le cas, pour un certain nombre de gens, il me semble aussi.
Mais est-ce que c'est pas juste le fait que ce soit des raconteurs d'histoires et qu'ils se soient juste intéressés à des domaines qui permettaient, dans les deux cas, de raconter des histoires?
Oui, je pense que c'est lié. Après, je veux pas en gros partir sur qui a fait la poule et qui a fait l'œuf, parce que c'est quelque chose qu'on va pas résoudre et que moi je vais pas résoudre. Mais c'est vraiment montrer ces liens, parce que effectivement, le JDR, lui, il s'est aussi inspiré d'autres choses. À la base, le jeu de rôle dans les références que donne Jack Sarneson dans le premier Dungeons & Dragons. Il y a beaucoup de références littéraires.
Il y a du Lovecraft, ouais. Parce qu'il y avait le panthéon de Cthulhu dans le Fin and Folio, je crois.
Dans le tout premier, dans ODD, oui. Il y a vraiment des auteurs de fantasy, c'est-à-dire Poole Anderson, Moorcock et Tolkien essentiellement. Mm-hmm. Donc déjà, c'est les relations d'influence, elles s'interpénètrent, oui. Si j'ose dire.
Brand, tu voulais dire quelque chose?
Juste, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on comprenne par rapport à Whedon notamment?
Oui. Bon, alors Whedon, en fait, il a une...
Pas si près.
Il a, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple, la façon dont il structure ses groupes de personnages.
Oui.
Finalement, il a commencé à faire des séries, que ce soit Buffy, que ce soit Angel, que ce soit Firefly. Même si dans Buffy, on a un personnage principal qui est Buffy, et dans la série porte son nom. On a toujours cette façon de spécialiser les personnages et de les mettre. Alors, c'est vraiment flagrant dans Firefly. Alors, j'ai entendu dire, et je cherche toujours une source officielle pour pouvoir le citer. J'espère pouvoir interviewer Whedon là-dessus, même si j'ai peu d'espoir. Mais en gros, il paraîtrait que Firefly était inspiré d'une campagne qu'il a créée.
Ah, d'un groupe de persos. C'est vrai que les personnages sont extrêmement avec un rôle bien défini dans l'équipage.
C'est ça.
Et ils fonctionnent en vase clos et pendant toutes leurs aventures.
C'est ça, on a vraiment des spécialités, au-delà des spécialités en termes de fiction pure et dure, ce qui va les définir, c'est d'abord leur utilité. Un peu comme les premiers groupes de PJ, ce qui les définissait, c'était des classes de personnages et c'était qui fait quoi. C'était toi t'es le mage, toi t'es le voleur, toi t'es comme dans les MMO. Mm-hmm. Et donc on a des personnages qui sont vraiment définis par ça. C'est un peu moins saillant parce que forcément le format est moins long. C'est un petit peu la même chose dans Alien 4 avec le groupe qui fait, où il y a dans le tas Winona Ryder, Gary Durdan et tous ces personnages là. Il y a vraiment ces archétypes là qui sont saillants. Je trouve que c'est encore plus saillant l'influence du jeu de rôle dans Dollhouse, parce que finalement dans Dollhouse c'est quand même des gens qui rentrent dans le rôle de personnages où on leur apprend des compétences, où on leur apprend, en fait ils intègrent des classes de personnages, c'est ça qu'on intègre dans les corps vides un petit peu. Et donc limite quand ils ont les fiches sur les ordinateurs avant de faire le transfert de personnalité, ils ont vraiment
structuré ça comme une feuille de perso,
mais carrément. Et donc en fait ils font jouer les personnages.
Ouais.
À ce qu'on pourrait presque appeler des joueurs, quoi. Alors après, mmh. C'est des choses dont j'aimerais beaucoup discuter avec lui, mais bon, encore une fois, j'ai peu d'espoir, mais pour savoir si c'est conscient, si c'était pas conscient du tout ou pas, mais j'ai vraiment, enfin moi, ça m'a vraiment, je trouvais ça vraiment parlant. Et ensuite, il y a toutes les références, là pour le coup, évidentes qu'il met, par exemple, dans le dernier épisode de Buffy, ton dernier épisode, en fait, le dernier soir, qu'est-ce qu'ils font? Ou l'avant-dernier soir, ils font une partie de jeu de rôle, ou à un moment, il y a Xander, dans un épisode d'une des dernières saisons, il cherche un monstre dans les livres, comme ils font toujours, ça aussi, le fait de chercher les monstres dans les livres. Et en gros, Buffy lui dit, non mais pose ça, c'est le bestiaire de Dédé, quoi. Donc après, je pense que c'est quand même important pour lui, dans le sens où c'est quelqu'un qui a...
Dans E.T. aussi, il joue à Dédé.
Tout à fait, ouais, il y a un truc qui ressemble fort. Donc je pense, c'est vraiment quelqu'un dont l'œuvre. Et puis il y a tout ce qui est évolution des personnages aussi. Alors ça, ok, c'est pas spécifique au jeu de rôle, mais c'est vraiment quelque chose auquel il apporte une grande importance, quoi. Comment un personnage, qu'est-ce qu'il était devenu, ça se voit dans Angel, ça se voit aussi beaucoup dans Firefly. Donc désolé spoiler si vous avez pas vu Firefly, mais vous avez River Tam qui est un personnage qui commence, la première fois qu'on la voit, elle est en position fœtale, c'est un personnage très faible, et à la fin de Serenity, ben c'est juste la plus forte de la série, quoi. Donc voilà, je pense que dans Whedon, bon, il y a d'autres choses aussi, mais globalement, il y a toutes ces choses là qui, je trouve, sont vraiment parlantes.
D'accord.
En termes d'influence, quoi.
Et aussi tout à l'heure dans ces liens entre le jeu de rôle et le reste, tu me parlais on parlait plutôt de World of Warcraft,
ouais.
Notamment,
ouais.
Entre l'influence à la fois de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un.
J'ai pas trop joué au jeu online, j'avoue, mais bon, je vois bien le principe, je vois bien comment ça marche.
C'est vrai qu'il faut peut-être que je dise aux auditeurs de quoi je parle, en fait. En fait, je signalais tout à l'heure l'aller-retour qui a été fait entre ADD, enfin plutôt D&D 3 et World of Warcraft. C'est-à-dire, il a pris le concept de classe, de perso dans un monde médiéval fantastique, tout ça. Et puis dans D&D 4, on retrouve les types de personnages, c'est-à-dire le tank, le DPS, tout ça, qui se retrouve dans la partie stratégique D&D 4. Voilà. Oui, Brand.
Pour le coup, tu as même eu, tu sais, avec l'OGL, tu as une version D20 de World of Warcraft aussi qui est sortie en papier, une adaptation directe. Donc il y a eu plein de liens, ouais. Et même largement avant l'époque de World of Warcraft. Hein. T'as plein de jeux vidéo sur Dragonlance, avant, c'était joué au Dojo Master, aux Eye of the Beholder, les trucs comme ça. Et même encore largement.
C'est vrai que là pour le coup, c'était carrément la licence Forgotten Realms.
Baldur's Gate, Neverwinter's Night.
Ouais, ouais. Ouais, il y en a eu juste une étonne.
Ouais.
Et on en parlait tout à l'heure, Richard Garriott donc, a fait les Ultima, qui est un des piliers de l'histoire du jeu de rôle en ligne. En fait, au départ, quand il était étudiant, faisait ses jeux sur des machines où il était obligé d'écrire sur des carnets parce qu'il n'y avait pas accès pour les coder, en fait, coder les programmes. Et tous ces carnets s'appelaient DD avant qu'il fasse ses premiers jeux. En fait. Et c'est très inspiré de ça. Et aujourd'hui, on a plein de vieux pontes du jeu vidéo qui font plus trop de jeux vidéo en fait, qui l'enseigne à la place et qui du coup parlent leurs premières années à faire soit du jeu de rôle, soit en concevoir, soit y jouer en fait. Et c'est quelque chose qui revient vraiment dans toute l'industrie du jeu vidéo.
Ouais, c'est vrai, même encore maintenant, bah, c'était sur Mass Effect, le créateur Casey Hudson, il disait, la façon dont ça a été présenté, en gros, c'était vraiment une petite équipe de rôlistes qui s'enfermait dans une pièce pour réfléchir à l'univers de Mass Effect, qui du coup maintenant va devenir une licence maintenant que la trilogie est finie et qui vont continuer, et voilà. Et apparemment, la façon, alors je sais pas du tout ce qui est vrai, ce qui est fou là-dedans, mais ce qui en ressort, c'est que la façon dont ils ont travaillé sur ce jeu, c'était pas genre avec une équipe de design de 150 personnes, mais c'était vraiment à l'ancienne où autour d'une table ils ont réfléchi qu'est-ce qu'on va faire comme univers de science-fiction, qu'est-ce qu'on va mettre politiquement dedans, quel choix va devoir faire le joueur quand il va jouer à Mass Effect. Donc c'est encore quelque chose qui est très prégnant. Après on connaît tous les liens.
Semble-t-il, l'une des tendances des rôlistes qui font autre chose, c'est aller dans l'hyper détail d'univers. Et par exemple, dans Mass Effect, c'est vraiment le cas, parce que le moindre personnage a des choses à raconter, sa propre culture, ses besoins, etc.
Ouais, c'est ça, c'est terrible avec ce jeu. C'est qu'on a l'impression, quand on est dans cet univers, que quand un univers de jeu est bien fait, on n'a pas l'impression qu'il est juste fait là pour qu'on y joue. On a l'impression quand même, quand on est ailleurs, il se passe des choses, alors qu'évidemment c'est pas vrai, mais c'est ça qui est super. Et passer, c'est tout con, mais niveau immersion, passer devant des gens qui sont en train d'avoir une conversation, dans Mass Effect c'est super, comme on revient beaucoup aux mêmes endroits, il y a des conversations qui sont suivies, et ça c'est des espèces de petits fragments d'histoire qui n'ont rien à voir avec le personnage principal ni rien, mais qui donnent une espèce de caution à l'univers qui est vraiment profonde et qui est vraiment, on se dit cet univers, quand je m'en vais, il continue à vivre, alors que c'est pas du tout online ou quoi que ce soit, contrairement à un univers persistant, c'est pas du tout le cas. Mais on a cette illusion là, et ça c'est assez efficace en termes d'immersion.
Tout à fait. Alors reprenons le fil du détail de ta thèse. Donc sur les spécificités du média, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le jeu de rôle qui lui sont spécifiques?
Bon, alors après c'est des choses très personnelles, parce que une thèse, en gros, c'est pas le grand livre des jeux de rôle, quoi. Après il y a quelque chose qui est vraiment de son ressenti propre et qui peut tout à fait être
sujet à discussion,
exactement, subjectif, contredit, et il y a pas, voilà, c'est vraiment qu'une vue subjective. Moi en fait j'ai eu un peu l'impression que la littérature, bon là ça va être la partie un peu chiante, mais la littérature à partir du 19e siècle, ça a été quelque chose d'écrit et de sacralisé, notamment en France avec les grands auteurs, les Victor Hugo, en disant les gens, quand tu écris, quand tu fais une histoire, c'est que tu as une caution, c'est que tu as une autorité. Ça a été très académisé, notamment à l'école, la lecture. En fait, c'est quelque chose qu'on a rendu d'un petit peu, je dirais, aride, un petit peu chiant. Et on a complètement décrédibilisé la culture orale, et la culture orale, notamment des histoires et du conteur. Et
la culture populaire.
Ouais, et tout ce qui est rural, tout ce qui est régionaliste, on a vachement dénigré ça au profit d'une espèce de France plus unifiée et de culture française avec des grands auteurs. Et donc il y a une espèce de pression toujours sur la littérature en France. D'ailleurs, ben, t'as quand même une frontière très marquée en France, beaucoup entre, ben, par exemple, les genres de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, le fantastique et la littérature générale. Et ça, tu le retrouves chez les libraires, tu le retrouves chez les lecteurs. C'est
avec un certain mépris.
Tout à fait. Et j'ai l'impression,
de la part des libraires,
Des lecteurs et des médias, des grands médias, qui commencent tout juste à en parler de temps en temps, quoi. Mais c'est pareil pour beaucoup de choses, comme le jeu vidéo, enfin peu importe.
Et le jeu vidéo a la chance de faire de l'argent.
Exactement.
Donc du coup, il devient intéressant médiatiquement.
Ouais, c'est encore, ça commence, que c'est vrai, quand on parle de GTA, c'est pour dire que ça fait tuer des enfants, donc on en est quand même encore. On en est quand même encore très loin. Brand a eu un sourire vraiment effrayant.
J'en ai pas d'autre.
Et donc du coup, ouais, ce qui m'a semblé, c'est qu'avec le jeu de rôle, bah, les gens, ils sont un peu réappropriés cette façon de faire les histoires à l'oral, sans pression, juste en s'amusant, en créant des mondes pour soi, en créant des histoires pour ça, et avoir juste la jouissance pure de faire des histoires, quoi. Parce que ce qui est vachement dénigré, et vous voyez quand vous faites des études de lettres, ce qui est très dénigré dans la littérature aujourd'hui, c'est le fond, c'est-à-dire le faire être un bon raconteur d'histoire. On vous dit des choses qui sont des grosses conneries, du genre oui, Flaubert, il s'en foutait de l'histoire, alors que c'est pas vrai du tout en plus. Et du coup, on est très accroché au style, et j'ai l'impression que le jeu de rôle, c'était en partie une façon de se réapproprier les histoires par l'oral, et la façon sans pression, sans se prendre la tête, de revivre un peu le frisson qu'on a à faire des histoires tous ensemble, comme quand on fait de la musique, voilà, ou en jazz. Donc je reprends une image qui est pas de moi, mais qui est de Thomas Labouré. Donc c'est très vrai, finalement on improvise une histoire, quoi, parce que l'écrit, c'est quelque chose de figé, l'histoire, elle est terminée, il y a un auteur, il a une autorité, l'histoire est comme ça. Ça peut être discuté aussi, ça, hein, parce que. Mais bon, ça reste quand même l'écrit, quelque chose de figé, terminé. Et là, ce qui est bien, c'est que même si certains vous diront que dans les premiers jeux de rôle, le MJ avait toute autorité et compagnie, n'empêche que on a une structure d'histoire par l'oral qui est suffisamment malléable pour être quelque chose que tout le monde s'approprie et qu'on vit tous ensemble, quoi. Et ça, c'est vraiment spécifique du jeu de rôle. Et c'est vraiment quelque chose, bah alors on peut retrouver d'autres formes avant dans le passé, mais j'ai eu l'impression que sous sa forme moderne, c'est vraiment cette façon de se raconter des histoires ensemble et de les construire ensemble, c'est vraiment le truc qui est spécifique, quoi. Et encore aujourd'hui, je pense, parce que le jeu vidéo, pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose qui malgré tout est en grande partie préprogrammé, quoi.
Oui.
Donc on peut quand même faire, voilà, donc le jeu de rôle a permis cette liberté. Justement parce qu'avec peu de moyens et où on générait que ce texte à l'oral en parlant entre nous, ben on crée des mondes et on crée des histoires. Et finalement, bon, même si l'image, ça peut intervenir de temps en temps comme aide, le monstre ressemble à ça, ça me rappelle d'ailleurs les gens qui ont fait les manifestes pour les rétroclones, Chandler, ce genre de personnes, qui expliquaient qu'ils aimaient notamment les tout premiers systèmes de donjons, parce que comme il n'y avait par exemple pas la compétence Disable Device, ils devaient expliquer quand ils tombaient sur un piège comment, alors le MJ décrivait le piège très précisément, c'était à eux d'expliquer comment ils allaient désamorcer le piège. Donc du coup, on peut dire, alors c'est la compétence du joueur, c'est plus la compétence du personnage, mais
oui, en fait il y a une partie de la fiction qui a été remplacée par des mécanismes par la suite.
Tout à fait, par la suite en fait, quand on lit ODD, moi ça m'a vraiment frappé, parce que j'avais plein de préjugés avant de lire ce jeu, et quand j'ai pu me procurer les éditions originales, ça n'a pas été une révélation, mais limite, quoi. Et du coup, quand j'ai relu à l'aune de ces jeux-là, les manifestes des rétroclones, j'ai vraiment compris en fait ce qu'ils voulaient dire. Parce qu'effectivement, en termes de fiction, on a quelque chose de beaucoup plus riche et d'histoire, en expliquant comment je tire sur tel ressort pour voir ce que ça fait. C'est en fait finalement beaucoup plus riche, paradoxalement, que fait ton jet de compétences. Mais ça peut être discuté, parce que finalement, quand c'est le joueur qui explique comment il désamorce le piège, ce qui est testé, c'est pas la compétence du personnage, c'est la compétence du joueur. On a les mêmes débats sur le charisme, on a les mêmes débats sur l'intimidation, sur la persuasion. C'est toujours le conflit. Qu'est-ce qui est la compétence du joueur? Qu'est-ce qui relève de la compétence du personnage? Mais c'est super intéressant, du coup. Et...
Oui, souvent, les on tient compte dans la fiction des compétences orales réelles du personnage qui est censé être intelligent.
Oui.
Alors que, par exemple, si le guerrier, son joueur est un gringalet, ça ne pose pas de problème. Du coup, de ce point de vue, il est dans les anciens systèmes, il est assez avantagé.
Oui. Ouais, c'est ça, et c'est en plus, moi je me rappelle quand on joue à Cops, du coup, et ben l'intimidation et ces genres de choses, on mettait pas de points dedans parce qu'on sait qu'on va le jouer. Et je crois qu'il y a une bonne partie des groupes de rôlistes qui ont leurs propres règles maison pour gérer ça de façon différente, d'une table à l'autre en fait.
Tu voulais dire quelque chose?
Non, juste rappeler tout à l'heure ce dont tu parlais sur les manifestes des jeux old school. Il y en a un qui est disponible en ligne gratuitement qui s'appelle. Je crois que c'est Primer for Old School Gaming, un truc comme ça. Je pense que c'est pas Matthew Finch.
Ouais.
Et qui est dispo en français dans Sword and Wizardry de Kobayashi, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Peut-être tu pourras mettre les liens, je sais pas.
Oui, oui.
Pour le coup, c'est assez sympa parce que c'est expliqué en français avec des exemples. Et donc, c'est très très clair, il parle exactement de ça.
Mmh.
Alors, sincèrement, je ne sais pas trop si le jeu est sorti ou pas. S'il n'est pas sorti, il doit sortir, quoi. Il y a pas mal ces exemples-là, peut-être pour voir pour les joueurs qui veulent voir de quoi ça parle concrètement.
Du coup, ça m'a perdu. on en était où?
On parlait des compétences,
oui, des machins,
Et les compétences des joueurs et les compétences des personnages, et que d'une table à l'autre, c'était pas du tout géré pareil.
Retrouver l'espèce de simplicité qui attribue beaucoup plus de fonctions à la fiction que.
C'est ça. Après, je veux pas trop différencier fiction et jeu,
ouais.
Parce que c'est des sphères qu'on a souvent opposées. En fait, ça dépend. En gros, dans la recherche fiction et jeu, il y a des gens soit qui les opposent complètement, soit qui les rassemblent complètement. Moi, je pense qu'on peut plutôt les rassembler. D'ailleurs, comme on peut rassembler narration et jeu, et ça divise encore plus les gens. Mais du coup, finalement, on a un peu le jeu de rôle, c'est un peu le truc qui est que plus c'est pauvre, plus c'est riche, quoi.
Ouais.
En termes de ce qu'on te donne, et plus tu dois imaginer les choses, et plus ça donne de liberté, quoi. Alors après, évidemment, il y a une question de goût, mais au final, voilà, avoir des systèmes où à l'époque il n'y avait pas de compétences, il n'y avait pas de dons, il n'y avait pas toutes ces choses. J'ai mieux compris qu'est-ce qui avait généré le jeu de rôle. Parce que
quel type de plaisir de jeu on avait à ce moment-là.
Ouais, et pourquoi c'était différent. Parce que oui, c'est aussi là qu'ils disent que les règles sont des guidelines, enfin sont des guides, et qu'elles sont forcément incomplètes et qu'il faudra les enrichir. Et tant c'était quelque chose dans le wargame qui se faisait, d'après ce que j'ai compris en lisant le bouquin de John Peterson, qui se faisait quand même assez régulièrement,
ouais.
Tant j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas ça dans le Monopoly ou dans les jeux habituellement, quoi. Et qu'une partie de cette petite révolution, ça a été de dire les règles, c'est pas des lois en fait, c'est quelque chose pour vous guider dans le jeu. Et d'ailleurs, quand on lit ce bouquin, bon, il faut se le farcir, hein, le John Peterson, c'est 600 pages en anglais écrit en tout petit, mais c'est super intéressant parce que c'est dans comme tout le monde, je sais que les jeux de rôle au début ça s'appelait pas jeux de rôle, il y avait un titre qui faisait trois lignes sur Donjons et Dragons qui était War Games for Pencil and War Paper nanani nanana, et je me suis demandé alors mais d'où il sort ce terme. Et dans ce bouquin là ce qu'on apprend, c'est que c'est pas Jack Sarneson qui l'ont lâché, ils l'ont récupéré après, mais ce terme il est sorti dans la presse. Les Wargamer Newsletter, ce genre de choses. Et un des gars qui a été le premier à lâcher le terme, c'était Barker, le gars qui a fait Écumel, Empire of the Petal Throne.
Ah oui.
Et c'était ce gars-là qui a repris le terme, qui était un terme du début du siècle, qui était pour une thérapie psychologique. C'est un Allemand qui a inventé ça, c'est une thérapie psychologique. Et il a dit tous ces jeux de fantasy, Donjon, En Garde, qui est moins connu, mais qui est super important aussi. En fait, tous ces jeux de fantasy, c'est plus vraiment du wargame. On dirait roleplay, et là, il lâche roleplay. En fait, c'est la presse, à force d'analyser les jeux et surtout la pratique qu'en avaient les joueurs, qui ont lâché le terme. En gros, ça s'est pas passé et les gars, j'ai une super idée, on va faire un jeu, ça va être révolutionnaire, ça va s'appeler RPG, ça va être trop dingue. Non, c'est vraiment fou parce que c'est limite un jeu qui a été autant inventé par les joueurs que par les auteurs. Et la façon dont ils se le sont appropriés, dont ils l'ont joué, ce qui en est ressorti dans la presse, même s'il y avait des embryons de roleplay dans leur partie de diplomatie. Ce qui, voilà, c'est vraiment sorti dans la presse, et après les autres jeux et TSR ont commencé à le remettre sur leur jeu, en fait. Mais c'est un truc, ouais, je savais pas non plus, et ce bouquin est super bien pour ça, quoi, parce que ça replace vraiment les choses telles qu'elles se sont passées, et ça dégage un peu les préjugés qu'on peut avoir, sur les origines.
D'accord. Je suppose que tu as dû lire quelques-uns des jeux de rôle parus, les jeux indés et tout ça.
Ouais, ça m'arrive, ouais.
Est-ce que tu penses que ça va influencer la façon dont on fait du jeu de rôle, hein?
Tu parles des jeux spécifiquement, tu parles des story games
Ouais, voilà, ce genre de jeu. Est-ce que ça va amener des pratiques qui seront plus les mêmes qu'il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça?
Bah, ce qui est très compliqué quand on parle de JDR, c'est justement la pratique, quoi. Parce que je me rends compte que d'une table à l'autre, moi je me suis
retrouvée. C'est vrai, en plus.
Entre ce qui est annoncé dans un jeu et comment on le joue, moi j'ai joué des années INS, avec un côté presque un peu, si j'osais dire le mot, je dirais presque néphilim. Et quand j'ai rencontré d'autres gens, même si on se marrait bien INS, hein, il n'y avait pas de problème, mais il y avait quand même un fond sérieux sur les campagnes, notamment des dernières éditions. Et en fait, j'ai appris après les différences qu'il y avait, ou les guéguerres qui pouvaient avoir d'image entre ces jeux. Où, par exemple, j'ai beaucoup joué à Vampire, c'était quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout. Pour moi, Vampire, quand j'ai commencé à jouer, c'était juste un gros jeu de baston et de super-héros, quoi. Et un jour, quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, mais storytelling.
Brand.
Non, rien, c'est un sujet dont on a déjà souvent parlé avec Aurélie, et elle comprendra un jour pourquoi Vampire c'est bien.
Mais j'adore.
Et pourquoi les. Non, c'est juste un point sur lequel on est d'accord. À titre personnel, moi je pense que c'est un jeu qui est très très bien. Pour le coup, qui dans la façon dont il parlait de lui-même était un peu péteux, clairement, mais qui portait plein de choses en lui qu'on n'a juste pas exploité. Mais tous les joueurs, hein, c'est-à-dire la nature, l'attitude, tous les aspects liés à la volonté, aux vertus, tous ces trucs-là, ça nous est passé à l'as à la plupart des joueurs.
Complètement.
Et pourtant, il y avait plein de choses qui étaient déjà intéressantes dedans. Et je pense notamment toute la forge, c'est pas mal construite, donc fin des années 90, début 2000, et elle s'est pas mal construite en opposition à ce qui marchait alors, comme la plupart des, comme un peu tout ce qui est alternatif en fait. Et alors les jeux qui étaient en vogue, c'était les jeux White Wolf, et je pense qu'ils leur ont fait beaucoup de mauvais procès. Cela dit, comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile de séparer ce qu'il y a, enfin plutôt c'est pas toujours la même chose entre ce qu'il y a dans le jeu et la façon dont on le joue. Et je pense que typiquement un jeu où il y a un fossé phénoménal, c'est Vampire. Et surtout entre la première et la dernière édition, enfin la troisième, je parle pas de Requiem, je parle pas des nouvelles, etc. Où dans la première, on savait pas ce que c'était le sabbat, on savait pas ce que c'était que les autres créatures bizarres, on jouait, il était impensable de passer, d'avoir un pouvoir au-delà de 5. Et dans la troisième, on filait d'entrée de jeu, en fait, l'explication des clans du sabbat, l'explication des anti-tribus, l'explication de ce que c'était la troisième génération. Tout le monde connaissait Solo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Vampire, désolé, mais disons que c'est des éléments très importants de l'histoire de Vampire, en fait, qui ont émergé au fur et à mesure des suppléments. Et comme tout le monde sait, chez White Wolf, il y en a eu au moins 2-3, quoi.
Oui, mais c'est peut-être un mauvais procès que de dire ça pour les éditions suivantes, parce que évidemment dans un jeu à secret, si tu es amené à les découvrir au fil des suppléments, il y a bien un moment où il se pose la question éditoriale du comment est-ce qu'on va synthétiser tout ça, et le meilleur moyen c'est de tout rassembler au même endroit, notamment dans un bouquin de base. Donc ce qui est exploré n'est plus à explorer par définition.
Alors, tout à fait, mais du coup, par exemple, donc la troisième édition et la première édition sont des jeux très différents par rapport à ce qu'on ressent quand on y joue, en fait. J'ai presque envie de dire un gros mot, mais au niveau de l'esthétique, en fait, quand on joue, et c'est pas du tout la même. On continue à jouer des gens. Alors au départ, on jouait des mecs un peu torturés qui avaient des problèmes dans la vie, enfin dans la mort. et à la fin effectivement des super-héros
mais avec beaucoup en force.
C'est une question de référence aussi, comme c'est un jeu qui a beaucoup fonctionné avec des références d'autres médias. Au début ils sont vraiment restés sur Unrise, et donc quand ils citent les influences, c'est vraiment ça qui est prégnant dans l'édition de 91 et dans celle de 98. Ils ont rajouté tout un peu les
Blade,
vampires, exactement, les vampires punk des années 80, les trucs genre Morsure de l'homme, le truc avec aussi Jack Bauer là, avec Kiefer Sutherland,
Génération perdue,
tout à fait. Ça a donné beaucoup d'importance à ça. Donc c'était aussi, il y avait eu Buffy depuis, il y avait eu les Anita Blake, qui est une série de romans qui s'est extrêmement bien, vendue. Donc il y a tout au niveau communauté avec les autres médias. Pour le coup, c'est un jeu très intéressant parce qu'ils sont vraiment imprégnés de ce qui se passait avec la culture gothique qui émergeait. Et notamment, ils ont fait un procès à Sony pour le film Underworld. Alors avec un argument qui était vachement intéressant. Il y a une fille qui a fait un article dessus en anglais où l'argument de White Wolf, en fait, c'était de dire les éléments qu'il y a dans Underworld n'ont pas été inventés par Reinhagen, mais la façon dont il les a agencés sont spécifiques à White Wolf. Et donc ça s'était terminé comme la plupart des procès pour droit d'auteur aux États-Unis avec
un gros chèque.
Exactement, donc c'est pas allé en procès et c'est presque dommage parce que j'aurais vraiment voulu voir les développements et les arguments de chacun. Et en plus, enfin moi, le truc pour lequel je trouve Vampire super intéressant, c'est parce que pour moi ça a été un des premiers univers qui a été donné en forme de schéma. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous amusez à jouer à Glorantha, il va falloir, je sais pas, vous ingurgiter toute l'encyclopédie. Alors qu'avec Vampire, vous lisez un bouquin de base, vous savez que dans une ville telle qu'on la connaît, en plus c'est facile, hein, une ville telle qu'on la connaît, on peut le faire jouer n'importe où, il y a une structure, c'est-à-dire voilà, un prince ou une princesse, des primogènes, des clans, et à partir de là, on peut faire jouer n'importe où, quoi. C'est pas un problème. Bon, alors après, c'est... on a un gros exemple avec Chicago ou avec tous les suppléments qu'ils ont sortis, mais ce qui est super, c'est que même avec un bouquin de base de vampire, c'est vraiment un univers qui est donné pour le coup en clé en main, si j'ose dire, en tout cas pour l'époque, parce que je trouvais ça vraiment génial de dire voilà, on a un schéma, vous allez pouvoir l'exporter à n'importe quelle ville et à sa culture et faire jouer à vampire avec ça, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment très fort, cette façon de structurer les univers à une époque où on était sur des gros settings très très bien, hein, par ailleurs, notamment pour ADD2, les Ravenloft, voilà, les Forgotten Realms, c'est tout ça qui sont des très bons univers, mais ça prenait vraiment le contre-pied. Exactement. Et moi j'ai vraiment mes jeux pour ça, et je trouve ça super intelligent de l'avoir structuré comme ça, parce que pour le coup, niveau prise en main, vu qu'on n'a pas ce côté vraiment encyclopédique qui est quand même un petit peu, hein, y a quand même les lignées, il y a quand même les clans, tout ce qu'on veut. Je trouvais que c'était un jeu qui marchait très bien par rapport à ça, en dehors du storytelling et de toutes ces choses-là qui peuvent être discutées.
Il y a aussi l'avantage que ce soit du contemporain, donc tu n'as pas à expliquer le quotidien, en fait.
Voilà, exactement, c'est juste posé par-dessus, en fait, et pouf, on joue, quoi.
Cette couche d'appropriation, enfin, on l'a beaucoup vu, en fait, tout le monde faisait son l'endroit où il vit by night, en fait, avec je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque ou Tarb by night, il y a deux vampires, ils sont déprimés, suicides, où on se posait beaucoup de la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de jouer dans une ville qu'on connaît ou pas. Alors on se l'est posé dans d'autres jeux, hein. Mais à l'époque de Vampire, t'avais l'impression que tous les groupes que tu rencontrais se posaient cette question, quoi.
Ouais.
Est-ce que ça vaut le coup de jouer avec ma boulangère chez moi qui peut pas me supporter, et il y a vraiment juste appropriation. Il y a eu plein de, alors on a eu les cas de Ludis et des bouquins sur la France, mais je crois qu'il y a eu plusieurs versions, même dans Cassius, de Paris by Night, de choses comme ça. Et c'est un truc qui était vraiment prégnant à l'époque, et c'était bien avant tous les côtés open source, etc. Enfin, c'est,
ouais.
En tout cas, que ce soit autant généralisé que dans 2000, quoi. Encore une fois, on parle d'une époque qui était avant Internet, quoi. Enfin, pardon, pas avant Internet. Avant la démocratisation du web et d'Internet.
D'ailleurs, en GN, il y a une grosse communauté de GNistes vampires qui est assez ancienne. Et justement, qui à cette époque-là faisait comme c'était pas beaucoup de moyens, il fallait un bar, voilà, comme ici, avec une jolie cave. Et très tôt, c'est un jeu que les GNistes, les communautés se sont pas mal appropriés, parce que pareil, en termes de costumes, c'était pas compliqué, on pouvait faire jouer ça. Et même à Toulouse, il y a encore des, campagne en semi-réel, de la mascarade, quelque chose qui est resté, mais c'est quelque chose qu'ils avaient aussi beaucoup développé. Ils avaient appelé ça Mind Ice, je dis pas de bêtises, non ?
C'est Mind Ice Theater. Ouais.
Voilà, Mind Ice Theater. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient senti et ils ont pas été cons. Et c'est parce qu'aussi ils étaient vachement dans les communautés gothiques, ils voyaient les gens en costume et ils ont pris ce truc-là. Et en tout cas en France, et ben, c'est quelque chose qui a encore des traces très visibles aujourd'hui. Quoi.
C'est vrai que Vampire a beaucoup fait pour les chemises en dentelle. Et...
N'est-ce pas ? Et à jabot. Et...
Oui, je crois qu'on a tous des souvenirs émus de cette époque-là, l'époque où on était jeune et fringant. Mais par exemple, ces éléments-là étaient écrits, si je ne me trompe pas, dès la première édition de la règle du jeu. Vous expliquez comment y jouer. Alors, je sais plus quel terme, c'était en GN ou en Sumriel, enfin, je sais plus. Il y avait le Mind Ice Theater. Mais même dans les règles du jeu de rôle Vampire, la première édition, ils disaient, ben voilà, vous pouvez jouer en GN. Et c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas partout, vraiment. Bon, je crois qu'on a un peu digressé sur Vampire, par contre.
Oui,
ça arrive souvent,
c'est
ça.
C'est vrai.
Bon. Non, tu disais, l'apport, en gros, des story games, oui. Ça allait marquer. Bah oui, mais je pense que c'est même déjà fait. Hein. Même dans des jeux, on va dire, je vais pas dire mainstream, parce que c'est un mot qui veut tout rien dire, mais même dans des jeux qui se revendiquent pas, en tout cas, de story games, ni de la Forge, ni des héritiers de la Forge, il y a franchement des traces qui sont vraiment évidentes. Et même si les gens s'en défendent, dans certains jeux John Doe, hein, j'ai pas peur de le dire, je m'en fiche. Pour moi, il y a des choses qui viennent de là. Alors après, si vous discutez avec des archéorolistes, ils vous diront que c'est des éléments qui existent depuis le tout début dans Castle Perilous, et ils n'auront pas totalement tort.
Ou dans Prince Valiant.
Voilà, ils auront pas.
C'est encore plus vieux là, Castle Perilous.
Ah oui, c'est vrai. Je connais même pas le titre.
Non, c'est 10 ans avant.
Ouais, ah, non, oui. c'est très très tôt effectivement. Et bon, après on peut. C'est oui et non, parce que c'était quand même pas. Enfin.
C'était marginal en fait.
Déjà, c'était marginal, mais même si tu penses sur le jeu de. Après, alors Castle Perilous, j'ai pas pu le lire parce que j'ai retrouvé que des scans, mais je vais me récupérer apparemment un exemplaire complet par le plus grand collectionneur du monde. De la France, mais ouais,
de cette cave
en tout cas. Mais ce que j'ai lu dessus, en fait, vraiment, en gros, c'est oui, mettez-vous à jouer, mettez de la musique, relaxez-vous, mettez-vous dans l'ambiance, et maintenant vous allez discuter tous ensemble de l'univers dans lequel vous voulez jouer, et chacun va apporter sa petite pierre, quoi. Alors si tu veux, c'était peut-être pas formalisé dans la partie où voilà, t'as des jeux où dans la partie l'univers tu construis vraiment ensemble pendant la partie. Tu vois, on en était pas là ou à ce point-là. Mais après, oui, ce sont des éléments certes qui existaient avant, mais là, quand même, l'apport de ces jeux-là, c'est des choses qui mettent au cœur du système, quoi, vraiment. Donc, en gros, on peut pas totalement dire que c'est une super évolution inédite, et ça, c'est quand même abusé de dire que tout existait déjà avant. T'as vu comme c'est suisse comme position, comme ça, je me mets personne à tout.
Voilà. Ok. Ok, merci. Bon, on a un petit peu fait le tour, je pense. Comment qu'on va conclure ?
Bah, je sais pas, pour conclure, bah, la thèse, je suis dessus. Elle devrait, j'espère, elle doit être soutenue fin 2014, hein, parce que de toute façon, c'est la deadline, hein, comme on dit. Mais vous connaissez les deadlines du JDR, sauf que celle-là, j'ai pas intérêt à me louper. Donc, je sais pas, j'espère que ça sera intéressant, parce que c'est intéressant déjà pour les rôlistes, en dehors du simple cercle de recherche, en dehors du simple cercle universitaire. J'espère qu'il y aura pas trop de redites et qu'il y aura des choses intéressantes pour les gens qui font du jeu de rôle. Je pense pas que ce sera une thèse qui aidera les gens à mieux jouer, que c'est clairement pas le but, et je me prétends clairement pas capable de faire ça, mais en tout cas voilà, j'espère juste que les gens, s'ils la lisent, ils trouvent ça intéressant et que ça leur apprendra des trucs. Et que
quand elle sortira, tu me passeras le PDF.
Ouais, bien sûr, pas de problème. Après tu la liras et tu verras comment c'est long, et puis après tu quand je te demanderai si tu l'as lu, tu diras je suis en train
j'ai passé le sommaire et c'est un peu dur.
Ouais, va falloir passer la partie sur la théorie, la récapitulation. En fait, t'as une partie dans les tests qui est la partie est-ce que t'as fait tes devoirs, où tu reprends les théories du jeu, où tu reprends les théories de la fiction et t'expliques. Et moi, je suis passée un peu vite là-dessus parce que voilà. Mais ça, c'est vrai que ça fait un peu pleurer, quoi.
Ce qui est vraiment intéressant aussi là-dedans, quand on commence à regarder au-delà de ce que fait Morali, c'est que on s'aperçoit que nous les rôlistes, on a tendance à se dénigrer comme c'est pas permis. On a honte. Alors on va pas refaire l'histoire avec les histoires de Carpentras, de Mireille Dumas et tout ça, mais clairement on n'est pas une population qui a forcément l'habitude d'aller voir vers l'extérieur ce qui se fait. Et quand on va voir auprès de certaines facs, quand on va voir des gens qui ont réussi, mais même dans notre domaine, et qui parlent de l'apport qu'a eu le jeu de rôle pour eux, en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont très 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 friands de ça.
Ouais.
Alors les institutions peut-être pas forcément, mais quand on discute avec des auteurs de fantasy, enfin tu en parlais tout à l'heure, et de ce qu'ils doivent au jeu de rôle, il y en a quelques-uns qui le cachent, mais il y en a plein qui viennent et qui expliquent tout ça. Quand on va discuter avec des profs de fac de tel ou tel domaine, qui nous disent mais nous on a besoin de savoir ça, on a besoin que vous nous expliquiez, vous les gens qui faites du jeu de rôle, à quoi ça ressemble.
Ah, ils sont comme des dingues, hein, vraiment, il y a un vrai besoin, t'as raison.
Mais je pense que c'est important sur un média rôliste comme Radio Rôliste. Hein, c'est pour les rôlistes, Radio Rôliste.
Oui, oui.
D'accord. De d'entendre ce message-là, qui est d'ailleurs on peut sortir de nos caveaux, on a le droit, quoi. On a le droit et c'est cool. Et il y a même des gens qui nous attendent et pas forcément pour nous flinguer.
C'est ça, il y a une vraie demande. Ouais. Il y a vraiment une vraie demande. Et moi, quand j'ai commencé à discuter avec Anne Larue de la thèse, parce qu'en fait, juste avant ça, j'avais fait pour le Master Édition, j'avais fait un petit mémoire sur le JDR, mais d'un point de vue édition vraiment centré. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et en fait, elle m'a dit, quand elle m'a parlé des labos, par exemple, quand les équipes de recherche travaillent en labo, elle m'a dit les gens qui ont un domaine sont précieux. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un domaine dans ce jargon-là ? C'est connaître un truc qui intéresse tout le monde mais que personne connaît. Et du coup, le jeu de rôle, en tout cas à Paris 13 et dans son labo et tout ça, ils sont vraiment friands. Tous les gens qui bossent sur la fantasy en sont vraiment friands aussi. Et l'image du jeu de rôle, maintenant, en tout cas dans cette institution-là que moi je connais, sérieux, c'est pas du tout un truc dénigré. Alors si, bien sûr, ils vont vous dire certains romans en licence, ils sont pas bien, et évidemment. Mais globalement, en tant que média, c'est vraiment un truc qui est super respecté. Mais vraiment respecté, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que ça a vraiment changé et que c'est en train de continuer à changer, quoi.
C'est vrai que on a un peu tendance à rester entre nous et à pas trop le dire. Mais ce que je trouve aussi étonnant, c'est les gens qui en sortent, tu vois, qui font autre chose que du jeu, enfin qui sont passés à autre chose que le jeu de rôle, eux non plus n'en parlent pas.
Ça dépend lesquels.
Ça dépend vraiment. Si t'en parles à quelqu'un comme Mathieu Gabory, il va pas arrêter de t'expliquer en quoi le jeu de rôle c'est génial et ça l'a aidé, quoi. Ça dépend. Tout à l'heure, je te parlais des. On parlait de Warren Spector, on parlait de Richard Garriott. Donc, c'est pas des petits noms dans le jeu vidéo. Et ils passent leur temps à t'expliquer ce qu'ils doivent au jeu de rôle. Donc, ça dépend vraiment des gens. Après, l'autre point qui est intéressant sur toutes ces choses qui évoluent, c'est le fait d'avoir non pas des gens qui viennent de la fac et qui regardent le jeu de rôle comme regarderaient des. J'ai presque envie de dire des ethnologues du 19e siècle qui iraient faire un tour en Afrique, mais des gens comme Coralie qui jouent d'abord au jeu de rôle, qui sont d'abord des rôlistes, avant d'aller proposer des choses en fac. Il y a le cas d'Olivier aussi, Olivier Caïra, il y a un certain nombre de personnes qui font ça et ça vaut le coup. Et je pense qu'on peut commencer à faire nos coming out de rôlistes, on a le droit.
Ouais, et puis en plus, finalement, les thèses, les travaux universitaires, alors. Il y a beaucoup de sociaux. Bon, lui, Olivier Caïra, à la base, c'est de la socio. Aussi, Gary Alan Fine, c'est le premier gros travail universitaire sur le jeu de rôle, c'est de la socio. Il parle aussi pas que de ça, il parle aussi beaucoup de fiction et tout ça, mais il parle aussi des populations rôlistes et des pratiques. Moi, c'est un truc pour le coup en littérature que j'ai pas du tout. Moi, je me concentre vraiment sur ce qu'on pourrait dire qui est plus théorique et moins empirique, parce que pour moi, encore une fois, les pratiques, c'est tellement différent d'une table à l'autre que je peux pas les mesurer. Donc, c'est paradoxal de dire le jeu de rôle, c'est pas le bouquin, mais je suis un peu obligée de partir des bouquins. Et ce qui est intéressant de pointer, pour le coup, c'est le décalage entre le programme que donne un jeu. Te poser la question de est-ce que le système de jeu me permet vraiment de faire ce que l'auteur a dit qu'il allait faire.
En fait, il faudrait que tu observes des groupes en train de jouer, plusieurs groupes différents avec le même jeu, et voir la façon dont ils l'interprètent.
Olivier Caïra l'a fait, hein, dans son bouquin.
Ah oui,
ouais, il l'a fait, ouais, dans son bouquin.
Les forges de la fiction.
Dans Les Forges de la Fiction, il l'a fait, il a fait, il a, il a, il a, il a, il y a une bonne partie où d'ailleurs il donne le scénario tout ça, et il a pas mal fait, parce que pour le coup pour moi c'est vraiment plus un truc aussi de sociologue, parce qu'ils ont vraiment les clés pour le faire, ils ont des méthodes de travail que nous en littérature on n'a absolument pas. Donc c'est vrai que pour moi le coup je me concentre plus sur les liens entre les médias, qu'est-ce que permet de faire le média, et ça reste quelque chose de très théorique sur la fiction, sur les histoires, sur la narratologie. J'espère que ce sera pas trop aride et que ce sera assez intéressant et malgré tout. Malgré tout, mais ouais, pour moi, pour le coup, c'est en fait, il n'y a pas eu d'autres boulots dans la matière littérature sur le jeu de rôle. En fait, même aux États-Unis, en littérature, c'est la première fois. Je sais qu'il y a un gars qui même a fait un crowdfunding pour sa thèse, et j'étais là, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Je galérais beaucoup moins
pour se payer les billets d'avion pour aller voir.
Et c'est un ricain. Alors c'est en ethnographie qu'il fait, et il le fait que sur donjon, mais sur tout donjon, quoi. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir ça.
En ethnographie.
Mais carrément, je sais pas, parce que du coup, ce qu'il explique, c'est pas très détaillé, mais j'ai vraiment hâte de voir ce boulot. Si il se tient aux dates qu'il a annoncées sur ton crowdfunding, je pense que ça devrait tomber à peu près en même temps que moi. Mais donc voilà, il y a un gars qui fait sa thèse là-dessus, donc tu vois, ça déborde sur d'autres matières que la socio ou le game design ou ce genre de choses, quoi. C'est
avec le pur jeu ou les ou l'étude de goût ou les trucs comme
ou la socio pure et dure. Après t'as aussi en France quelques travaux sur le théâtre, les liens avec le théâtre et ce genre de trucs. Le GN, il y a eu une thèse qui a été soutenue il y a quelques mois, et ça m'énerve parce que je me souviens plus le nom du thésard, ce qui est dégoûtant.
C'était pas Guillaume Craft comme tout ça.
Franchement, j'ai oublié. Je sais qu'Olivier Caillera m'en avait parlé parce qu'il avait pu aller à la soutenance, toi aussi, et ça avait l'air super intéressant. Ça avait l'air super intéressant comme thèse. Et c'était quoi comme matière, tu t'en souviens ou pas?
Non, mais je me demande si elle est pas disponible en téléchargement ou quelqu'un. Si c'est le cas, pareil, on pourra mettre le lien ou les coordonnées, quoi.
Oui, avec grand plaisir.
Voilà. Et donc ouais, c'est pareil, c'est une des premières thèses sur le GN, parce que le GN, voilà, c'est encore autre chose. Donc ouais, enfin, je pense qu'on n'est pas au bout du boulot sur tous ces sujets-là, et surtout on est des sujets qui sont en évolution constante, quoi. Une des grosses difficultés pour la thèse et pour laquelle ça me prend tant de temps, c'est qu'à un moment donné j'ai dû dire j'arrête d'intégrer des trucs, quoi. Donc il y a des personnes très désagréables qui arrêtent pas de m'envoyer des nouvelles références et des articles à intégrer que je ne nommerai pas, mais qui sont de type brandesque. Et au final je me suis dit bon allez,
rien de faire les choses à moitié, hein.
Fin 2013 j'arrête d'intégrer des nouveaux trucs, sinon la thèse tu peux pas la finir, parce que comme dit, on travaille pas sur des auteurs morts comme quand tu travailles d'habitude en littérature sur Victor Hugo. Disons que des apports, il y en a tout le temps sur le net, tout le temps, tous les jours.
C'est pas faute d'essayer.
mais voilà, donc c'est en plus c'est un média en constante évolution, donc je pense que tout ce qui est les travaux dessus, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Et puis bon, la France et le jeu de rôle, c'est quand même une relation, c'est pas pour faire cocorico, mais il y a quand même une relation qui est particulière, voilà, où il y a le plus de jeux originaux après les US, il y a quand même une histoire, une épopée du jeu de rôle où on apprend des légendes, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, c'est trop fou, quoi.
Avec plein de personnages plus grands que nature.
Mais oui, tu peux faire la geste du jeu de rôle en France, tu fais un truc magnifique, je pense.
Il y en a quelques-uns bien plus petits que nature aussi.
Aïe, 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 ça part mal.
Bon, et bien ce sont sur ces méchancetés que nous allons conclure cette interview. Écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant.
Bah, merci.
J'ai hâte de lire ça.
Ouais, ça met la pression quand même. Ça fait caca mou. C'est pas une bonne conclusion, ça.
C'est pas mal.
Et du coup, c'est pour quand?
Eh bien,
fin 2014.
Eh bien, merci à tous. Et sur ce, à bientôt. Salut.
Au revoir.
Salut.